Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, 2 heures ensemble sur tous les continents. À la une aujourd'hui, vendredi 28 mars, un tremblement de terre très puissant en Birmanie et en Thaïlande. Un séisme de magnitude 7,7, peu profond, puis une réplique violente, elle aussi quelques minutes plus tard. Même à des centaines de kilomètres de l'épicentre, les habitants ont été secoués.
J'ai vu à l'heure du déjeuner tout bouger autour de moi. Les murs balançaient de droite à gauche. On a l'impression que les balancements étaient d'une amplitude de 50 cm. On a des canalisations qui ont explosé, l'eau qui a envahi des couloirs et la réception. Vraiment un tremblement de terre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre précédemment.
Témoignage d'un Français installé à Chiang Mai en Thaïlande où les autorités déplorent 3 morts dans la capitale. En Birmanie, aucun chiffre n'a été communiqué pour l'instant. Mais des images montrent des blessés au sol devant un hôpital de la capitale dont les urgences sont débordées et... fait plutôt inhabituel, la junte au pouvoir appelle à l'aide internationale. On en parle avec notre invité dans 3 quarts d'heure. À suivre aussi l'actualité africaine et la visite au Soudan du Sud de l'envoyé spécial kényan. Déplacement au lendemain de l'arrestation du vice-président à Djouba. Et puis dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, nous reviendrons sur la mort d'un policier de la mission multinationale en Haïti cette semaine dans le département de l'Artibonite. Rendez-vous à 13h, temps universel. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
Et d'abord, comme chaque jour, notre demi-heure européenne, nous vous proposons aujourd'hui une plongée dans le quotidien des migrants en Libye, dans le quotidien de tous ceux qui passent par les prisons, les centres de privation totale de liberté, qui subissent les pires violences de la part des passeurs et parfois des forces de l'ordre libyennes en espérant plus tard rejoindre l'Europe. L'Europe qui non seulement ne veut pas d'eux, mais en plus fournit des subventions à la Libye pour qu'elle empêche les départs. Nous allons accueillir dans quelques instants 2 invités pour en parler, mais avant je vous propose d'écouter un témoignage, celui d'un homme, Ibrahim. Ce témoignage, il a été lu, c'est une retranscription de sa parole.
Je ne peux pas tout raconter car il y aurait trop de choses à dire. J'ai vu trop d'atrocités ici. La Libye, c'est pire que l'enfer. Bani Walid, c'est le pire endroit sur Terre. C'est là-bas que j'ai vécu les pires moments de ma vie. Chaque jour, on te torture, on te frappe avec des tuyaux ou on te met des décharges électriques sur le corps. Ils appelaient nos familles pour leur demander de l'argent en échange de notre libération. Plusieurs personnes ont été battues à mort sous mes yeux. Les corps sont ensuite enterrés dans le désert. J'ai moi-même été obligé de le faire, sous la menace d'armes. Si tu ne fais pas ce qu'ils disent, ils te tuent. Les femmes disparaissent de la prison de 19h à 7h du matin. Elles sont violées toutes les nuits à l'extérieur. C'est très difficile pour nous les hommes, mais pour les femmes c'est encore pire. J'ai vraiment pitié pour elles.
Voilà, témoignage à retrouver sur le site infomigrant.com. Des mots, des histoires comme celle-ci, vous en entendez régulièrement. Armando Côté, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, vous travaillez au centre Primo Levi. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une lecture, pas d'une parole au micro. Parce que c'est très difficile, hein. C'est très rare que les migrants qui sont passés par la Libye acceptent de témoigner et de faire entendre leur voix, encore plus de montrer leur visage. C'est ce que vous observez aussi ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'un des effets de la violence politique et des violences extrêmes, c'est justement l'impossibilité pour la victime de pouvoir en dire quelque chose. C'est quelque chose qu'on trouve effectivement dans notre clinique de façon quotidienne.
Est-ce que les personnes que vous recevez peuvent quand même raconter une partie de ce qu'elles ont vécu ?
Oui, mais ce qu'on constate, c'est que ça se passe par des petites bribes et ce n'est pas le but de qu'elles puissent raconter parce qu'au moment de la violence, on n'est pas sujet, on est objet de l'autre en fait. On subit, comme les témoignages l'ont dit, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des choses dont ils ne sont pas d'accord, ils doivent assister à des choses qu'ils ne voulaient pas voir. Donc, c'est très difficile de témoigner ou en dire quelque chose de tout ça. Donc, c'est pour ça que souvent, ce qu'on trouve, c'est un grand silence, mais un silence qui est rempli justement de tous ces souvenirs.
Est-ce que les personnes que vous recevez connaissaient les risques avant de partir ?
Pas tous. D'autres, oui, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que souvent, c'est un pari sur... soit d'une famille, d'une personne qui dit « bon, de toute façon, je vais tenter d'avoir une vie meilleure ailleurs ». Et c'est au détour d'un passeur ou quelqu'un d'autre qui ment ou qui dit quelque chose qui n'est pas vrai et qui fait que la personne se trouve en Libye ou dans un camp des réfugiés. Donc et souvent, ils savent qu'il y a un risque, mais ils font confiance aux passeurs. Donc et souvent, c'est les passeurs qui les amènent parce que tout est réglé déjà.
Est-ce que ça peut aller au point que certains ne savaient même pas qu'ils se retrouveraient en Libye?
Ah oui, non, mais non, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui décident de quitter le pays ou qui, bon, ils sont forcés, parfois des enfants qui, la famille disent, pour échapper au pire ici, il faut que tu ailles ailleurs. Donc, souvent, c'est une surprise et ils savent pas où est-ce qu'ils arrivent. Donc, c'est découvrir l'enfer, comme on dit là, les témoignages, après, mais ils savent pas avant.
Et parmi les personnes que vous recevez, est-ce qu'il y a un pays qui revient le plus souvent, un pays d'origine? D'où viennent les personnes que vous rencontrez, vous, au quotidien?
Au centre Primo Levi, on reçoit de plusieurs nationalités parce qu'on travaille à plusieurs langues. On a la possibilité de travailler avec des interprètes. Donc, mais l'Afrique subsaharienne, représente une grande partie de nos patients. On reçoit à peu près 400 patients par an. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui viennent de cette zone. Donc, c'est surtout la Côte d'Ivoire, les Congos. Et effectivement, après, c'est le détour des, comme je vous disais, un passeur ou quelqu'un qui les amène parce que c'est une traite des êtres humains, finalement. Il y a tout un business, c'est quelque chose qui est déjà très organisé, malheureusement.
Armand Docoté, vous restez avec nous. Nous sommes rejoints par la directrice associée au Centre de recherche Migration Policy Institute Europe. Bonjour Camille Lecause.
Bonjour.
Il y a les réseaux de passeurs dont nous parlait Armand Docoté du Centre Primo Levi. Quel est le rôle des autorités des deux gouvernements qui se partagent la Libye aujourd'hui?
Oui, c'est vraiment compliqué parce que en Libye, il y a effectivement un manque de clarté sur qui est responsable de tout, de maintenir l'ordre. Et ça a été aussi un enjeu pour la coopération entre l'Union européenne et les différents États membres et les autorités libyennes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une implication qui a été reportée qui a été documentée par de nombreux journalistes, des ONG, des autorités dans ces réseaux de passeurs, dans ces réseaux de trafic d'êtres humains, avec notamment des allers-retours entre des personnes qui sont interceptées dans des bateaux qui allaient quitter les côtes libyennes, qui sont ensuite mises dans des centres de détention. Et puis ces centres qui sont à la fois une manne financière parce que c'est des endroits où les autorités ou bien les milices responsables de la gestion de ces centres font chanter les personnes, leur extorquent de l'argent via l'intermédiaire d'appels à leur famille. Et puis, en même temps, essayer d'obtenir, de capter certains financements internationaux pour améliorer les conditions de ces centres. Donc, c'est
Donc
vraiment
les
très difficile.
autorités aussi gagnent de l'argent du trafic de personnes?
Oui, il y a un certain nombre, il y a quelques semaines encore, des branches associées au gouvernement ont été mises en cause par la justice libyenne sur leur implication, enfin du fait de leur implication dans ces réseaux-là. Donc on voit bien qu'il y a un niveau de corruption qui est tel, mais qui est aussi lié à l'état de déliquescence de l'État libyen, en fait. Tant qu'il n'y aura pas une infrastructure, d'infrastructures claires à ce niveau-là, ça ouvre la porte aussi à ces abus et ensuite à tous les allers-retours sur ce trafic d'êtres humains et d'activités de passage aussi, puisqu'il y a aussi une demande des personnes qui, lorsqu'elles arrivent en Libye, cherchent à gagner les côtes italiennes.
Armando Côté, est-ce que les personnes que vous recevez savent qui les retient, qui les torture?
Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Tout est inconnu. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une zone des non-droits avec des personnes inconnues. C'est-à-dire que la promesse du début, parce que parfois les parents ou la famille ou les groupes d'appartenance payent les passeurs pour garantir qu'ils vont arriver en Europe. Donc après, tout devient pas clair du tout à quelques kilomètres du pays. Donc c'est vraiment une découverte. Il se rend compte qu'il y a tout à fait son amant des personnes qui peuvent faire d'eux ce qu'ils veulent finalement.
Avec l'Europe donc comme objectif, les autorités libyennes, dont le rôle est très flou, on le comprend, bénéficient pourtant, Camille Lecos, de financement européen. Qu'est-ce que la Libye, on va peut-être essayer de le rappeler, qu'est-ce que la Libye est censée faire pour le compte de Bruxelles ?
L'objectif du côté européen, que ce soit de la part de l'Italie ou de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, c'est de diminuer les arrivées en Europe. Ça, c'est particulièrement important. Important pour les Européens et surtout dans le contexte actuel où il y a toutes ces tensions sur le nombre de personnes qui arrivent en Europe. Et puis il y a un contexte aussi politique avec la mise en place de ce nouveau pacte asile et migration qui a été adopté à l'été dernier et qui va demander de nombreux investissements, notamment de la part des autorités italiennes. Donc on voit l'enjeu de maintenir un faible niveau d'arrivée pour que les investissements nécessaires puissent être faits avec puis c'est fait en temps voulu. Donc, depuis des années, en fait, il y a une espèce de pilotage des autorités italiennes sur ce sujet. À l'époque, enfin, dès 2017, le ministre de l'Intérieur italien avait négocié un accord avec la Libye et qui avait ensuite été repris par l'Union européenne. Donc, il y a une continuité à ce niveau-là avec, j'ai envie de dire, quatre axes de coopération qui sont financés de manière assez inégale en fait, mais le premier c'est le contrôle des frontières avec un appui aux gardes-côtes libyennes et aussi aux autorités à la frontière sud du pays. Ensuite un soutien à ce qu'on appelle les retours assistés, c'est-à-dire organiser le retour de personnes qui sont en Libye vers leur pays d'origine. Et là il y a différents dispositifs qui existent, mais l'un notamment où on a une agence des Nations Unies, l'Organisation Internationale pour les Migrations qui est impliquée. Et ensuite il y a aussi l'existence de voies d'évacuation, de voies légales avec des dispositifs d'évacuation soit à l'heure actuelle vers le Rwanda ou alors des corridors humanitaires qui existent en Italie mais qui concernent un nombre très très faible de personnes.
Et ce, malgré des violences dont on parle depuis des années. Le mois dernier, par exemple, un charnier a encore été découvert, comme l'an dernier, avec plusieurs dizaines de corps. Dans un rapport qui avait été publié en septembre dernier, la Cour européenne des comptes avait pourtant répété, intensifié même ses critiques sur ce programme européen qui reste toujours en place. Pourquoi, selon vous, l'Union européenne n'a pas suspendu ses financements à la Libye ?
Oui, donc ce rapport de la Cour des auditeurs, en fait, il concernait le Fonds fiduciaire d'urgence, qui est une grande initiative qui avait été lancée après 2015 à travers toute l'Afrique, et justement, elle avait mis en évidence le manque de traçabilité des financements européens en Libye, les risques d'utilisation d'équipements à d'autres fins, et puis l'absence d'un contrôle étroit sur les droits de l'homme. Et donc, ça, depuis, il y a un certain nombre de dispositifs en interne qui ont été mis en place, notamment un partenaire pour le suivi au niveau des droits de l'homme. Toutes ces discussions sont en cours. Maintenant, c'est évident que du côté européen, il y a une reconnaissance que toutes ces violations des droits de l'homme ont lieu. Et en même temps, la priorité politique pour l'Union européenne, c'est de continuer à restreindre les arrivées en Europe. Et l'idée, c'est aussi que cette coopération avec les autorités libyennes, elle est nécessaire. Parce que si elle s'arrête, c'est aussi mettre fin à un dialogue. Et donc, c'est aussi ce qui justifie le fait que ces contacts continuent du côté des hommes et femmes politiques européens.
Est-ce qu'il y a quand même un contrôle de la part de l'Union européenne pour améliorer le sort des migrants qui se trouvent en Italie ou pour surveiller les conditions dans lesquelles ceux qui quittent la Libye sont reconduits dans d'autres pays ?
Je ne saisis pas votre question par rapport à...
Est-ce que l'Union européenne exerce quand même un contrôle sur les deux aspects ? Vous nous disiez qu'il y avait un côté qui portait sur le soutien au retour assisté et puis le contrôle des frontières. Est-ce que l'UE a quand même un œil sur ce qui se passe en Libye et sur la manière dont les deux gouvernements répondent à ces conditions, à ces exigences ?
C'est très compliqué parce que l'accès au territoire libyen est compliqué du fait de l'insécurité. La Libye est aussi un État souverain malgré toutes les limites qu'on évoquait précédemment. Et on voit même que des agences onusiennes telles que l'OIM ou le Haut Commissariat aux réfugiés ont aussi des difficultés d'accès à ces populations, que ce soit les réfugiés ou autres populations migrantes. Et donc sur ça, ce que l'Union européenne essaie notamment de faire, c'est de s'appuyer sur ces agences onusiennes pour qu'elles puissent, par exemple, avoir accès aux centres de détention. Mais ce n'est pas toujours possible. Et là aussi, c'est parce que même les parties libyennes avec lesquelles les Européens échangent n'ont pas toujours le contrôle sur ces centres. Donc sur tous ces aspects-là, c'est vraiment compliqué. Ensuite, il y a eu des efforts pour soutenir des programmes, par exemple au niveau communautaire, essayer de favoriser l'accès soit à une aide humanitaire très, très basique ou sinon d'essayer d'avoir des projets un peu plus ambitieux. Mais là encore, compte tenu du contexte sécuritaire libyen, ça reste extrêmement compliqué.
Merci beaucoup Camille Lecause d'avoir été en ligne avec nous, directrice associée au Centre de Recherche Migration Policy Institute Europe. Et merci aussi à Armando Côté de nous avoir parlé donc du travail de ce centre Primo Levi. Armando Côté, psychologue dans cette institution qui accueille donc plusieurs centaines de migrants chaque année. Merci. L'actualité en Europe vue par les journaux du continent, c'est l'inquiétude en Allemagne où le secteur automobile est en crise depuis plusieurs mois. D'un trait de plume, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le président américain a fait chuter les cours des actions des groupes automobiles du monde entier et remis en question des flux commerciaux et des chaînes d'approvisionnement établies depuis des décennies. Et le quotidien prévient que ça n'est pas fini, le plus grand coup de Washington est probablement à venir. El País, de son côté, s'alarme que de nombreux jeunes ne voient aucun problème dans une quelconque régression de la démocratie, endossant le discours de plus en plus répandu selon lequel la culture woke, progressiste, serait allée trop loin. D'un côté, les réactionnaires profitent du trou de mémoire entre les générations, écrit le quotidien espagnol. Et puis d'autre part, ce débat naît aussi d'une fausse idée de neutralité préalable. Enfin, alors que la Belgique fait face depuis des années à une pénurie de main-d'œuvre, le journal Le Soir se demande ce qui rend un métier désirable. Eh bien d'abord l'argent. La rémunération est le critère numéro un pour les trois quarts des personnes. Mais 64% font aussi attention à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, aux conditions de travail. Et un tiers veulent un métier qui leur permette d'effectuer des tâches variées.
RFI, l'Europe à midi.
La presse toujours, nous sommes en ligne avec Tore Keller, correspondant du journal danois Information. Bonjour.
Bonjour.
On parle de nouveau beaucoup du Groenland depuis quelques jours, puisque Donald Trump a répété qu'il comptait prendre le contrôle du territoire. Il nous le faut, c'est une question de sécurité, selon lui, et il envoie sur place son vice-président. Comment est-ce que cette visite est perçue au Groenland et plus généralement au Danemark ?
Bah écoutez, les Danois et les Groenlandais sont très inquiètes. La visite américaine est perçue comme un acte agressif. Aujourd'hui, 4 des 5 partis du Groenland annoncent qu'ils forment ensemble un gouvernement après les élections du 11 mars. Il n'y a aucun de ces partis qui souhaite faire partie des États-Unis. Et c'est pareil pour la population groenlandaise. Donc nous n'avons aucune idée de nouvelles menaces qui J.D. Vance peut sortir de son chapeau de cow-boy cet après-midi quand il fait son discours dans la base aérienne américaine. Donc c'est perçu comme une menace et c'est quelque chose qui inquiète la population groenlandaise et les Danois.
Alors vu de Paris, on a l'impression que les ambitions américaines ont relancé des velléités indépendantistes au Groenland. C'est une illusion parce qu'on n'est pas sur place où il y a effectivement eu un nouvel élan pour la cause.
Dans un premier temps, certains hommes et femmes politiques groenlandais ont vu dans l'intérêt américain une occasion de faire pression sur le Danemark dans le cadre des négociations en vue d'une indépendance totale. Et pour accélérer cela et trouver d'autres sources de revenus pour le pays, qui est aujourd'hui très dépendant des fonds et des main-d'œuvre du Danemark pour maintenir un système de protection sociale nordique. Mais en effet, de nombreux Groenlandais souhaitent devenir une nation totalement indépendante. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un pays qui fait partie du royaume du Danemark, mais avec beaucoup d'autodétermination. Donc l'objectif de Groenlandais, c'est ne pas de faire partie des États-Unis, mais de devenir un pays complètement indépendant.
Est-ce que les habitants aujourd'hui attendent quelque chose de l'Europe et de l'OTAN ?
Je pense qu'il y a une attente du gouvernement groenlandais de solidarité dans la part des Européens et plus large, la société internationale, pour dénoncer cette idée qu'on peut annexer un autre pays, comme on voit les plans américains. Donc ça fait peur et je pense que les Groenlandais ont besoin d'une aide et d'un soutien de l'Europe, mais dans une situation où le Groenlandais restent quand même un acteur souverain dans leur propre territoire.
Je vous remercie, Torek Heller, d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle que vous êtes le correspondant ici à Paris du journal danois Information. La colère ne retombe pas en Macédoine du Nord, plus de 10 jours maintenant après l'incendie meurtrier de la boîte de nuit de Kochani et la mort de 60 personnes. 60 décès, plus de 180 blessés, c'est l'une des pires tragédies pour ce pays de la région des Balkans qui choque d'autant plus que la plupart des victimes étaient de très jeunes adultes, voire des adolescents. Et cette jeune génération dénonce depuis la corruption endémique dans le pays dont le drame est un révélateur selon le site indépendant MKD. Reportage Louis Seyé.
Après 7 jours de deuil et des rassemblements silencieux dans toutes les villes de Macédoine du Nord, des milliers de personnes ont laissé éclater leur colère ce lundi soir sur les boulevards de Skopje. À 21 ans, Christina tient une pancarte en mémoire des 60 personnes décédées lors de l'incendie de la discothèque de Kochani.
Je suis venue apporter mon soutien aux proches des victimes qui sont mortes à cause des pratiques illégales et des méfaits de certaines personnes. S'ils ne veulent pas se faire tuer à leur tour, il faut que les gens se réveillent. Et tant qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, nous devons continuer de protester.
Assassins, justice pour les victimes. Dans le viseur des manifestants, une élite politique tenue pour responsable de l'une des pires catastrophes de l'histoire du petit pays des Balkans. D'après les premiers éléments de l'enquête, la discothèque opérait au double de sa capacité officielle, avec un permis falsifié et dans une ancienne usine textile dépourvue de normes de sécurité adéquates. Professeur d'informatique de 34 ans, Nenad dénonce les bakchiches et les passe-droits qui empoisonnent les institutions macédoniennes.
Nous avons un système qui, à cause de la corruption et de l'absence de responsabilité, entraîne la mort de nombreuses personnes. Si les lois étaient respectées, si chacun faisait son travail comme il se doit, ces personnes seraient toujours en vie.
Face aux premières accusations, les autorités ont affiché leur réactivité et leur détermination. Un ancien ministre, deux anciens et l'actuel maire de Kochani, un vigile, tout comme le propriétaire de la boîte de nuit, des dizaines de personnes ont été rapidement placées en détention provisoire. Pas assez pour calmer une jeunesse qui n'en peut plus de l'impunité dont bénéficient les proches du pouvoir, local comme national. Vêtue d'un gilet jaune, Maria Arsenkova, 30 ans, est l'une des organisatrices de la manifestation.
Cette boîte de nuit fonctionnait dans une complète illégalité. Elle devait fermer en décembre et elle a été fermée par l'inspection publique. Mais elle a rouvert, comme par magie. Personne ne sait ni comment, ni pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Pour faire du profit sur le dos des gens, sur le dos de jeunes innocents qui voulaient juste s'amuser. Cette fois, pour la marche, nous avons décidé de changer notre slogan de « À qui le tour » pour « Autour du système ». Nous en avons assez d'être les victimes. Maintenant, c'est autour du système.
À 100 km à l'est de Skopje, Kochani et ses 30 000 habitants traumatisés semblent revenir péniblement à la vie. Des ouvriers et une pelleteuse s'affairent encore au bout du cimetière de la ville martyre. Près d'une trentaine de tombes ont été creusées à la va-vite et recouvertes de fleurs en plastique. Les visages souriants des jeunes victimes contrastent avec les pleurs et le désespoir des proches. À 59 ans, Dragan a perdu sa nièce dans l'incendie.
Quand on m'a expliqué quel bâtiment c'était, je me suis dit, c'est pas possible. C'était un atelier de tapis et c'est devenu une discothèque. Elle a fonctionné pendant des années et personne ne s'est inquiété des conditions. Il n'y avait même pas d'extincteur, rien. Et ils ont besoin de preuves pour mettre des gens en prison. Mais les preuves, ce sont les 59 victimes.
À Kochani, tout le monde a perdu un proche et connaît quelqu'un toujours soigné dans un hôpital à l'étranger. Le visage marqué et encore sous le choc, Venko Kursvetsky a survécu au drame. Le jeune homme de 32 ans est aussi l'unique élu indépendant du conseil municipal. Il dénonce les constructions illégales et le système clientéliste des partis politiques qui dominent la Macédoine du Nord depuis 3 décennies.
Ces partis majoritaires sont un cancer pour notre société. Ils politisent toutes les institutions et ce drame en est une conséquence. J'aimerais les changer et changer le système. Mais croyez-moi, c'est très difficile parce que pour y parvenir, il me faut un soutien plus large des électeurs. J'aimerais faire de ma ville un endroit meilleur pour les nouvelles générations et insuffler de meilleures valeurs morales.
Au lendemain de la catastrophe, des jeunes de la ville excédés ont détruit un café appartenant au propriétaire de la discothèque. Depuis, les autorités ont déployé un important dispositif policier. Mais ces intimidations n'empêcheront pas la jeunesse de lutter contre la corruption du système. C'est ce qu'affirme Stoyan Rajkov, un activiste local de 36 ans.
Corruption is killing Macedonia.
La corruption tue la Macédoine, elle tue chaque jour. Nous sommes une génération qui voit la corruption et qui la dénonce. Les générations plus âgées, elles, sont apeurées. Elles ne savent pas quoi faire dans cette situation et elles prennent peur. Mais la nouvelle génération sera celle qui ne fera preuve d'aucune clémence envers le gouvernement et la corruption. Je pense qu'on assiste au début d'un véritable processus de lutte contre la corruption, car là, c'en est trop. Nous allons lutter contre cette corruption et commencer à changer ce pays.
And we will start to change this country.
Alors qu'en Serbie voisine, de gigantesques mobilisations anticorruption font trembler le pouvoir, le gouvernement macédonien redoute la contagion. Surtout qu'il y a à peine 10 ans, la révolution colorée avait chassé ce même parti de droite nationaliste du pouvoir. Louis Seyé, de retour de Kochani, RFI.
Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI. Mais avant, on va écouter de la musique avec l'une des principales figures du son, Riddim, chef de file du mouvement Dancehall en France, Blaise Faya, et ce titre, Gimme This, à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Yo, bad boy, bad
boy. Mm-hmm. Mm-hmm. Keep up, all your bad. Gimme this, gimme that, gimme all you got. Don't find another man, girl, don't do that. Give me this, give me that, give me all you got. You say you want another man, girl, don't do that. You got a stamina, me too. Yeah, me girl, you got the formula. Me too, baby girl, you want a regular. Me too, baby girl, you want a regular. Me too. Girl, you hot, you know we happy fuck. We gonna keep it lucky, cause you know I saw me turn. From east to the west, I'm a girl is champion. Not gonna leave you, not even for a million.
It not me yet. Yeah, me girl, I think about you non-stop. I can't talk, me girl, you know none in a long talk. Want me like uptown, girl, turn bad and non-stop.
Uptown, girl, turn bad and non-stop. Give me this, give me that, give me all you got. Don't find another man, girl, don't do that. Give me this, give me that, give me all you got. You say you want another man, girl, don't do that. You got a stamina, me too. Yeah, me girl, you got the formula. Me too, baby girl, you want a regular. Me too, baby girl, you want a regular. Me too. Crazy players, dirty ways, but we know we come clear. The neighbors, them a listen, but we know we don't care. Up till the morning, upstairs, downstairs. You say you want a Uber, but the driver's far away. Far away,
yeah, that's how we go. Anything or anything, nobody happy, no. Breakfast time, another run, we love it so. Rock.
It's a bad, but we never play domino. Give me this, give me that, give me all you got. Don't find another man, girl, don't do that. Give me this, give me that, give me all you got. You say you want another man, girl, don't do that. You got a stamina, me too. Yeah, me girl, you got the formula. Me too, baby girl, you want a regular. Me too, baby girl, you want a regular.
Gimme This de Blaise Faya, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI, le choix de nos programmateurs. Dans 2 minutes, l'actualité internationale, ce sera le journal sur RFI, puis nous parlerons avec notre invité de ce séisme qui a secoué tout à l'heure la Birmanie et la Thaïlande. On apprend à l'instant que la secousse a fait 20 de morts au moins en Birmanie. C'est un hôpital de la capitale qui l'annonce. On déplore aussi 3 morts en Thaïlande. Et nous verrons comment la junte birmane, plutôt fermée, peut réagir à cette situation. Et puis à 12h30, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner.
Avec à la une aujourd'hui.
Des délégations de la rébellion du M23 et de représentants de Kinshasa sont à Doha. Le Qatar avait organisé, on s'en souvient, une rencontre entre les présidents congolais et rwandais le 18 mars dernier. Et puis Raila Odinga est à Juba. L'ancien premier ministre kényan est envoyé par le président Ruto, dirigeant exercice de la communauté d'Afrique de l'Est pour tenter de désamorcer les tensions au surlendemain de l'arrestation de Riek Machar par les forces du président Salva Kiir.
A tout à l'heure, on vous retrouve à 12h30, temps universel. La suite du programme, ce sera ensuite le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, comme chaque jour, une demi-heure consacrée au continent américain. Et on parlera notamment de la mort de cet officier de la mission multinationale. Ça s'est passé en Haïti, dans le département de l'Artibonite, victime d'une embuscade des gangs. On y revient à partir de 13h, temps universel.
Des... Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.